Bonjour. Décidément, le public est toujours au rendez-vous. C'est un vrai plaisir, cette édition du festival. Alors, aujourd'hui, enfin, pour cette séance, nous allons parler des dystopies. Dystopies pour un public plutôt jeunesse. Hein, et je présenterai les éléments, le point de départ de réflexion sur ces questions-là. Avec nous pour discuter sur donc la dystopie. Alors, ce sera plutôt dystopique post-apocalyptique parce que finalement, le versus du titre est un petit peu trompeur. C'est que finalement, les deux sont assez compatibles. Hein. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Et donc, avec nous pour discuter de ce sujet aujourd'hui, deux jeunes auteurs de dystopie à destination justement d'un public adolescent, enfin le young adult qu'on a un peu du mal à traduire en français, même si tout le monde voit de quoi il s'agit. Donc, Léna Jomaé, Agnès Marot, qui ont toutes les deux publié des ouvrages récemment sur, donc notamment, elles n'ont pas publié que ça, mais c'est surtout de ça que nous allons parler aujourd'hui, des ouvrages donc, de dystopie. Donc Léna Jomaé qui a notamment publié Les Oubliés, dont vous pouvez voir la couverture qui passe dans le petit diaporama, donc en deux volumes aux éditions Plume Blanche. Donc Les Oubliés qui fait le récit d'une révolte menée par des adolescents contre un futur pouvoir totalitaire. Alors je n'ai encore rien dit quand je l'ai dit ça, mais nous aurons l'occasion d'en parler un peu plus tard dans la séance. Agnès Marot, de son côté, a écrit plusieurs romans qui mettent en scène des mondes qui sont séparés, qui obéissent à des logiques dystopiques, et dont le plus récent, IRL, je ne vais pas prendre le temps d'expliquer ses initiales, mais nous verrons un petit peu de quoi il s'agit, puisqu'il s'agit d'un roman qui impose un esclavage numérique à des intelligences artificielles et dans une perspective qui est une perspective de télé-réalité. Donc c'est une combinaison relativement, enfin plutôt originale, quoique les influences du livre soient manifestes dans le récit lui-même. Et la particularité de ces intelligences artificielles, c'est que en fait, il faudrait peut-être plutôt les appeler des consciences artificielles, voire des intelligences émotionnelles. Hein, puisque la question de l'émotion, de l'impact émotionnel est très important, et c'est une constante, nous aurons l'occasion sans doute d'en parler, dans la logique de la dystopie, notamment pour jeunes adultes. Alors, dans les images qui circulent dans le diaporama, il y en a une qui ne concerne pas, à proprement parler, le sujet immédiatement, qui est voilà, Logan's Run, c'est-à-dire l'âge de cristal, quand ton cristal mourra, enfin, il y a eu plusieurs traductions, et il me semble que ce récit, quoique écrit puis adapté au cinéma, sans être spécifiquement pensé pour un public de jeunes adultes, résume bien une certaine logique de cette fonction dystopique. La dystopie, je le rappelle, c'est d'une certaine façon, c'est un terme qui peut admettre de très nombreuses définitions, mais l'idée générale, c'est qu'il s'agit d'une utopie négative. Une utopie négative, ça peut être pour plusieurs raisons. Ça peut être parce qu'il s'agit d'une sorte de machine infernale qui broie les gens de façon absolument écrasante, mais ça peut également être tout simplement un environnement qui ne convient pas à un certain nombre de ces citoyens et qui, d'une certaine façon, sous prétexte d'atteindre un état utopique, en fait, écrase, uniformise et empêche finalement l'expression du potentiel individuel des uns et des autres. Or, ces aspirations-là sont au cœur d'un certain nombre de publications jeunesse, d'une logique jeunesse, c'est-à-dire l'expression du potentiel individuel. Et dans L'âge de cristal, Logan's Run, eh bien, une idée forte, c'est que les personnages jouissent d'un certain bonheur réglé par une société tout à fait informatisée, automatisée, mais jusqu'à un certain âge. Et passé un certain âge, ils doivent disparaître. Et c'est ce refus de disparaître qui entraîne tout le récit, toute la chose. C'est-à-dire qu'il y a une concentration vers une jeunesse idéalisée et le refus de vieillir. Et il me semble que, à contrario, ce qui est intéressant dans les dystopies récentes, celles qu'on ne présente plus, Hunger Games, Le Labyrinthe, Divergente, c'est au contraire l'insistance qu'il y a sur le fait que, en gros, on n'attend pas, les personnages n'attendent pas d'atteindre un certain âge pour se rendre compte qu'il y a un problème. Au contraire, c'est parce que ils sont en situation, parce qu'ils sont jeunes et encore, posent encore un regard neuf sur leur société, qu'ils sont en état de se rebeller, de se révolter et de construire potentiellement une société nouvelle. Donc ça fait partie des aspirations qui sont inscrites dans, me semble-t-il, dans ce genre, ou du moins dans la configuration actuelle du genre. Alors, une des choses sur lesquelles nous allons avoir l'occasion de réfléchir, et de ce point de vue-là, je vous préviens que j'ai tendance à, j'aime bien ouvrir les questions assez rapidement vers le public, donc je vous tendrai le micro assez rapidement dans la séance. Parmi les questions que nous nous poserons, il y a la question de savoir s'il y a dans cette configuration justement des dystopies jeunesse, si on peut identifier des recettes, des instruments, des manières de faire fonctionner exactement l'écriture de ces romans. Nous pourrons éventuellement nous demander jusqu'à quel point on peut parler justement de stéréotypes, éventuellement de stéréotypes instantanés, de récurrence dans les différents personnages. Et dans quelle mesure ces stéréotypes en sont, c'est-à-dire est-ce qu'ils sont figés ou est-ce qu'au contraire ce sont plutôt que des stéréotypes, des archétypes, des figures centrales, symboliques, qui ont un potentiel de reproduction quasiment illimité. Nous pourrons les envisager également. Et un dernier point dont nous aurons sans doute l'occasion de parler éventuellement, même si il y a un point où la compétence, notre compétence s'étiole, c'est la réflexion sur ce que les jeunes gens de nos jours, dont malheureusement je ne fais plus partie, mais ce que les jeunes gens peuvent attendre de l'avenir et dans quelle mesure la projection dans des univers qui sont des univers négatifs qu'il faut réinventer, redistribuer, ce que ça révèle de leur regard sur nos sociétés contemporaines. Alors vaste programme, évidemment comme vous commencez à le voir, nous ne pourrons pas tout traiter, mais nous allons tâcher en tout cas de mieux cerner ce phénomène littéraire pour comprendre comment des futurs aussi sombres peuvent de fait déclencher un enthousiasme planétaire, un enthousiasme des générations actuelles. Alors, je commencerai, alors prenez vos micros je vous laisse répondre à votre gré et à votre rythme. J'aimerais commencer par une réflexion sur la question de l'héroïsme. Dans quelle mesure il y a une forme de réinvention de l'héroïsme contemporain, une version contemporaine de l'héroïsme dans ces figures frappantes sur lesquelles nous aurons l'occasion de revenir, donc aussi bien évidemment dans vos œuvres que dans les œuvres bien connues que j'ai évoquées tout à l'heure. Alors, Agnès Marot.
Je vais commencer. Bonjour déjà. Effectivement, moi, ce qui me frappe dans la plupart des dystopies, c'est qu'on n'a pas vraiment des héros à l'origine. On a des héros très ordinaires qui ont chacun une particularité qui va leur permettre de dépasser le cadre du monde dans lequel ils vivent. Mais dans Hunger Games, mis à part qu'elle s'est chassée parce qu'elle a dû apprendre pour survivre, c'est juste une jeune fille comme une autre qui n'a pas demandé à être le leader d'une rébellion. Elle est complètement... elle le devient un peu par la force des choses, et c'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans beaucoup de dystopies, qu'on retrouve aussi du coup dans les miennes, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse moi, donc je vais dire en deux mots de quoi parle IRL notamment. Le concept est simple, c'est comment vous réagiriez si vous découvriez que vous êtes un personnage de jeu vidéo. Et donc l'héroïne réalise petit à petit qu'en fait, qu'elle est en fait une sim, c'est que tous les choix qu'elle a fait dans sa vie, c'est pas forcément elle qui les a fait, elle est en plus observée en permanence, non seulement par les joueurs, mais aussi par toute une société de la vraie vie, donc l'IRL, qui retransmet les parties de jeux vidéo comme une télé-réalité. Et donc moi, mon principe, c'est que cette fille-là, à l'origine, c'est une lycéenne, tout ce qu'il y a de plus ordinaire, presque trop ordinaire, puisque c'est un personnage, un Sims, donc c'est assez stéréotypé, on en parlait tout à l'heure, à l'origine. Et en prenant conscience des défauts de sa société, du fait qu'elle n'est pas libre, finalement, elle va devenir extraordinaire et elle va devenir la première intelligence artificielle, enfin le premier personnage de jeu vidéo, à se considérer comme un être humain et à sortir du jeu, en fait. Et c'était important pour moi d'avoir un personnage ordinaire, parce que finalement je pense que c'est ça qui fait que les adolescents peuvent s'identifier autant dans les dystopies, c'est que finalement, ça pourrait être eux. Ils sont confrontés à une société qu'ils ne comprennent pas toujours. C'est l'âge où on développe aussi un intérêt pour la politique, qu'on commence à comprendre qu'il y a des combats. C'est au lycée qu'il y a souvent des blocages pour les réformes, ce genre de choses. Et c'est à cet âge-là qu'ils voient qu'eux aussi, peut-être, ils pourraient faire quelque chose dans ce monde qu'ils ne comprennent pas encore tout à fait, mais qu'ils commencent à essayer de comprendre. Je pense que c'est une des caractéristiques principales des héros de dystopie, parce qu'on a aussi dans Divergente, dont on parlait tout à l'heure, c'est aussi à la base une héroïne très ordinaire, simplement qu'ils ont des aspirations très fortes et qui vont les mettre en action, en fait.
Alors Léna, est-ce qu'on retrouve dans vos œuvres aussi cette logique du héros malgré lui qui s'éveille à la conscience politique à cause de ces circonstances?
Bonjour à tous. Je dirais même plus, en fait, c'est pas... on parle de héros en parlant de ces personnages-là, mais eux ne se considèrent pas du tout comme des héros. Ils auraient surtout envie qu'on les laisse tranquilles, continuer leur vie, peut-être dans un monde meilleur que ce qu'ils ont à ce moment-là, mais ils ont surtout pas envie d'être à l'origine du changement de ce monde-là. Ils aimeraient pouvoir s'en décharger, finalement, sur les épaules de quelqu'un d'autre. Ils sont mis en tant que héros, mais au départ, c'est pas du tout ce qu'ils cherchent à faire, finalement. Il rentre dans un mécanisme de « le monde dans lequel je vis n'est pas juste, mais si quelqu'un d'autre pouvait s'en charger de changer les choses à ma place, ce serait tout aussi bien. » Et c'est ce qu'on va retrouver dans Les Oubliés. On a effectivement un monde qui est post-apocalyptique, entre guillemets, parce qu'une apocalypse a eu lieu il y a 250 ans, la 4e guerre mondiale, qui a lieu en 2048, hein, préparez-vous. Et une nouvelle société qui s'est montée sur les bases d'un monde totalement détruit, avec cinq grandes villes qui restent dans le monde et qui sont mises sous coupole pour protéger la population d'un air extérieur qui est totalement pollué. Et puis un gouvernement qui en a profité pour mettre en place ce qu'on peut retrouver dans Divergente, qui en a profité pour mettre en place des examens, des tests, qui vont dire aux gens ce qu'ils vont devenir. À l'âge de 16 ans, ils passent des examens et on leur dit s'ils vont devenir des chefs d'entreprise ou s'ils vont devenir des ouvriers. Et puis on découvre une troisième catégorie qui est les oubliés. Et là, eux, on ne sait pas ce qu'ils deviennent. Et on suit du coup dans les oubliés un groupe d'amis qui passe ces tests et qui va découvrir que finalement, tout ce qu'on leur apprend depuis la naissance, ce n'est que des mensonges. Donc j'ai deux héroïnes qu'on suit en parallèle, mais qui n'ont pas demandé à être héroïnes finalement, qui sont juste arrivées là à ce moment-là parce que elles ont 16 ans et elles vont passer les tests, mais on compte sur elles pour faire changer les choses, mais c'est pas ce qu'elles avaient cherché au départ. Donc les héros sont héros malgré eux et c'est vraiment pas ce qu'ils avaient demandé. S'ils pouvaient s'en décharger sur quelqu'un d'autre, ils le feraient avec plaisir, je pense.
Oui, donc il y a un propos qui est moins, disons, politique que positionnel, c'est-à-dire que ces personnages se rendent compte que la place que la société leur réserve ne leur convient pas tout d'un coup, finalement. Et de ce point de vue-là, ce qui me semble intéressant, c'est de constater, enfin, dans de manière générale, à quel point les personnages adultes sont disqualifiés dans ces différentes fictions, disqualifiés soit de par leur impuissance, soit de par leur duplicité. C'est-à-dire que finalement, on a entendu effectivement la question des gouvernements qui organisent les choses pour tout le monde et qui suppriment en fait le libre choix, la question du libre arbitre, tout en prétendant amener les citoyens au bonheur. Et cette question finalement du libre arbitre et de la décision me semble au centre de ces dystopies, c'est-à-dire que c'est un sujet essentiel.
Oui, tout à fait. Et je repense justement à la position des adultes, le fait qu'ils soient devenus complices. En fait, les adultes sont souvent là comme justement, ce sont eux qui apprennent les nouvelles formes du pouvoir, qui incitent les adolescents à se conformer à la société. Donc forcément, s'ils sont adultes et qu'ils sont encore dans ce monde-là, en fait, ils sont forcément complices. Et ou alors passifs, ils ont abandonné l'idée de lutter. Et c'est quelque chose qu'on retrouve notamment dans pas mal de récits qui me viennent en tête. Par exemple, dans Le Labyrinthe, ils n'ont utilisé que des adolescents pour créer leur nouveau groupe qui est censé sauver la société. Je l'ai fait aussi dans De l'autre côté du mur, qui est donc mon autre roman dystopique, où dans l'univers, quand on fait c'est un univers très, très clos, où il n'y a que des femmes et qui connaissent très peu de choses, notamment elles ne savent même pas que les hommes existent au départ. Et en fait, dans cet univers-là, quand on fait une faute, on disparaît. Et entre l'adolescence et l'âge adulte, il y a un moment où on disparaît et on revient après en tant qu'adulte et on devient du coup un genre de professeur. Elles appellent ça les mères. Donc c'est vraiment elles qui vont devenir du coup les passatrices de ce nouveau pouvoir. Et effectivement, on a souvent des adultes qui sont qui n'ont pas forcément le beau rôle. Et je repense aussi à Hunger Games, parce qu'on a les adultes qui s'emparent de la révolte de Katniss et qui finalement se retrouvent à être aussi maléfiques que n'étaient les méchants à l'origine. Du coup, oui, effectivement, c'est quelque chose auquel j'ai pas forcément pensé, mais où il y a souvent ce rôle des adultes démissionnaires ou
complices d'un système.
Complices d'un système.
Oui, c'est exactement ce que j'allais dire. Et finalement, dans les dystopies, bien souvent, les adultes sont soit des missionnaires, c'est-à-dire qu'ils rentrent totalement dans le moule dans lequel on les attend, et ils ne cherchent pas à voir plus loin. On leur dit que depuis qu'ils sont nés, il faut que ce soit comme ça. Ils vont pas se dire, oui, mais pourquoi ? Soit ils vont être complices, voire encore pire. C'est ce qu'on voit dans Hunger Games. Hunger Games, c'est horrible ce qui se passe au départ, mais ce que la présidente veut mettre en place derrière, c'est pas mieux. Et elle veut même aller encore plus loin. Donc, il y a finalement plus que ces jeunes sur lesquels on peut compter et qui ont envie de faire changer les choses. Et moi, c'est ce qui m'intéresse dans la littérature jeunesse, et parce que c'est ce que je ressentais, moi, à l'adolescence, finalement. C'est que j'entendais parler politique à la maison, j'entendais dire que ce qui se passait, c'était pas comme ça qu'il fallait que ça se fasse, mais finalement, personne ne bougeait. Et je me dis que dans les dystopies, moi, en tout cas, en tant qu'auteur de dystopie, c'est peut-être ce que je cherche à faire, c'est de se dire, oui, mais si on faisait quelque chose, finalement.
Et ça me fait penser aussi, on parle donc là ici des dystopies jeunesse qui s'adressent principalement à des adolescents. Ça correspond aussi tout simplement au rejet de l'adulte qu'on a à l'âge adolescent, donc qui permet aussi, à l'adolescence, il y a ce rejet de l'autorité en général et des parents en particulier qui se retrouvent beaucoup du coup dans les schémas là, de révolte, puisque ça, c'est un tout qui inclut la famille en fait.
Et en même temps, il y a quand même des figures positives, mais quoique mises un petit peu en arrière-plan, qui sont des figures de des adultes auxquels justement ces adolescents-là peuvent aspirer, de ressembler un peu plus tard. Il existe un certain nombre de ces figures-là, malgré tout, qui sont en général un peu moins puissantes. Mais j'aimerais revenir justement à cette logique, finalement, de il y a un paradoxe dans cette présentation-là, dans ce problème qui se pose à des adolescents, des jeunes ou jeunes adultes, enfin des adolescents, qui finalement ne veulent pas entrer dans le modèle de la société, mais au sein d'un récit qui se conçoit quand même comme un récit en général d'initiation, d'apprentissage et d'empowerment, comme on dit en bon français. C'est une prise de pouvoir, c'est-à-dire que ce qu'on voit, ce sont des personnages qui, n'ayant aucune capacité au départ à s'emparer de la société, se trouvent par les circonstances et par leur qualité unique, on reviendra sur le caractère un peu spécial de certains de ces personnages, se retrouvent à pouvoir véritablement s'imposer sur le monde. Et il y a un paradoxe qui est que finalement, très souvent, même quasiment toujours, il n'y a pas forcément de capacité positive de construction de ces personnages. C'est-à-dire que c'est... ma question serait, quelle construction possible après la révolte ? Est-ce que ce sont des récits qui peuvent porter un message constructif au-delà, éventuellement, du message nécessaire de rébellion ?
C'est une question compliquée. On ne trouve pas souvent la réponse, effectivement, dans les romans. Je pense que je reviens à Hunger Games, parce que c'est l'exemple le plus marquant, à mon avis, sur ce sujet-là. Il y a un nouveau modèle qui est proposé, mais qui, finalement, ne convient pas non plus. Du coup, c'est vrai qu'on parle de révolte, on parle de liberté, on parle assez peu de l'après, qui pourrait être intéressant. mais qui souvent en fait les adolescents restent des adolescents. Ils veulent pas devenir les maîtres du nouveau monde. Ils deviennent les symboles de révolte, mais tout ce qu'ils aspirent au fond, c'est de vivre tranquillement en paix avec soit leur amoureux, soit leur famille. Et ce sont pas des leaders politiques. Ils peuvent le devenir malgré eux, mais ça reste des adolescents. Enfin, quand on est adolescent, on peut avoir des envies de liberté, on peut savoir que les choses ne correspondent pas, mais de là à être capable d'établir un modèle politique qui fonctionne et surtout à avoir envie de passer sa vie à essayer de le mettre en place, je pense qu'il y a quand même une marche qui n'est pas encore franchie.
Alors la question est marrante parce que j'ai une lectrice qui a fini le tome 2 cette semaine et qui m'a justement envoyé un message, et après, est-ce que tu vas faire un spin-off pour nous expliquer comment ça se passe après? Et finalement, je me suis arrêtée, mon épilogue se passe 10 ans après la fin des événements, où je laisse une ouverture, c'est-à-dire que mes héros deviennent instigateurs de la reconstruction de leur monde, mais où effectivement je ne vois pas plus loin, j'arrive pas à dire si ça va être positif, si ça va être négatif, parce que ben il y a tellement de choses qui rentrent en jeu que ben c'est compliqué de savoir si ce que nous on a donné à nos personnages, les clés qu'on leur a données, vont être suffisantes pour repartir sur un monde meilleur finalement.
Ouais, je rebondis juste que justement j'ai fait alors non pas une suite moi mais une préquelle à De l'autre côté du mur qui s'appelle Note pour un monde meilleur, donc c'est d'où ma réflexion, et où j'essaye justement de réfléchir à comment la société dystopique a pu être mise en place. Et justement pour moi c'est vraiment quelqu'un qui avait de très bonnes intentions du monde, qui a vu que son monde était en train de partir en vrille, qui a dit bon bah moi je vais créer un monde meilleur, et qui s'est foiré lamentablement parce que les choses lui ont échappé, parce qu'il avait des belles idées mais qu'il savait pas forcément comment les mettre en place, parce que d'autres se sont emparés de ses idées et les ont mis en place d'une autre façon. Et finalement en fait si on avait les réponses de comment créer un monde meilleur, je pense qu'il
n'y aurait pas de la dystopie.
Voilà, tout à fait.
Et en somme, ce sont plutôt des Che Guevara que des Fidel Castro que vous mettez en scène. Ceci étant, une chose qui est apparue, c'est qu'il y a tout de même un élément crucial dans la construction de ces personnages. Et quand je dis crucial, c'est qu'il participe énormément de l'attachement qu'on peut ressentir pour ces différentes héroïnes, héroïnes et héros, puisque ce sont souvent, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler, mais souvent des personnages féminins, ce qui pose des questions supplémentaires. Mais avant d'en venir à ça, il y a la question finalement de l'importance des émotions et des liens, que ce soit des liens avec des personnages de sa famille, qu'en général il faut sauver, préserver, ou des liens avec les intérêts amoureux, le garçon dont finalement elles vont, avec régulièrement des systèmes de duo, enfin de triangle amoureux, c'est-à-dire une hésitation entre deux intérêts amoureux distincts. C'est-à-dire que finalement, à l'intérieur même d'un cadre qui se pourrait se vouloir quasiment uniquement politique, une réflexion politique, révèle très souvent un moteur qui est un moteur purement individuel, et il y a une convergence, pas une divergence pour le coup, une convergence assez nette entre les intérêts de l'individu qui souhaite faire advenir ses choix amoureux et les intérêts politiques plus généraux de la rébellion. C'est-à-dire qu'il y a souvent cette espèce de rencontre un peu idéale entre ces deux besoins de l'adolescent, trouver l'amour et trouver sa place dans la société, ou créer la société ou trouver sa place.
Bien sûr, je pense qu'il faut tout simplement une motivation à l'adolescent, parce qu'il va devoir effectuer d'énormes sacrifices. Souvent, il risque de mourir un certain nombre de fois dans le roman. Pour avoir envie de se relever, de continuer à faire ses sacrifices, je pense que la motivation politique n'est pas suffisante. C'est-à-dire que ce que je disais tout à l'heure, il veut un monde meilleur, mais il veut un monde meilleur. Pourquoi ? Parce qu'il veut pouvoir vivre tranquillement, soit sa relation amoureuse, soit sa vie de famille, etc. Donc, ouais, pour moi, c'est évident qu'il lui faut forcément une motivation personnelle, que peut-être il peut dépasser après. Ça pourrait être quelque chose d'intéressant à faire d'ailleurs, de forcer le héros à sacrifier ses propres intérêts parce qu'il a découvert une conscience supérieure à son intérêt propre. Ça a sans doute été fait d'ailleurs.
Le dilemme, effectivement, entre le choix politique et le choix est souvent utilisé comme instrument de contrôle, justement. C'est-à-dire, c'est des choses qu'on retrouve dans vos œuvres, comme on retrouve dans les structures narratives récurrentes de ces dystopies. C'est le fait que un des instruments employés pour faire pression sur les personnages principaux, c'est justement menacer la vie de personnages qui sont chers pour une raison ou une autre.
Tout à fait. Moi, tout commence par une histoire d'amitié. Finalement, l'histoire démarre de là. C'est-à-dire qu'une amitié qui est en danger et qui va motiver finalement mon héroïne à rentrer dans ce cercle de guerre contre le gouvernement. Mais je pense qu'il faut aussi se rendre compte que ce sont des adolescents et qu'à l'adolescence, les émotions, qu'elles soient amicales, qu'elles soient amoureuses, prennent une part importante dans la vie. Et je me verrais mal écrire de la dystopie pour la jeunesse sans que ces émotions soient présentes dans le livre. On m'a un peu reproché d'avoir mis une romance en place dans mon livre que moi, je ne regrette, mais alors absolument pas. Je ne verrais absolument pas mon adolescente de 16 ans qui, malgré tout ce qu'elle peut traverser, ne ferait pas une rencontre amoureuse et n'aurait pas envie d'être amoureuse parce que ça reste une adolescente malgré tout.
Oui, puis il y a aussi une notion de plaisir dans la lecture, tout simplement. Moi, quand je lis une dystopie, j'ai pas envie de lire un livre politique, pardon. J'aime beaucoup quand ça m'apporte des éléments de réflexion, mais je lis avant tout pour me faire plaisir. Et ce plaisir passe par l'émotion avant tout, par le développement des personnages, de leurs relations, de leur caractère. Et pour ça, faut pas qu'ils soient tout seuls. Et voilà, donc, tout simple.
Alors, nous parlerons un peu plus directement de la question du fantasme de la catastrophe qu'il y a derrière toutes ces choses-là et la façon dont la catastrophe est utilisée. Mais j'aimerais voir si des gens veulent poser des questions à ce stade. Y a-t-il des questions dans le public? Non, personne ne se lance. Bon, vous avez le temps de mûrir vos questions. Nous allons continuer. Venons-en un petit peu à l'arrière-plan. Non, avant ça, il y avait une question qui était question de poser. C'est finalement... il y a une prévalence, même si ça n'est pas systématique, une prévalence du personnage principal féminin. Et avec, c'est je crois, un des éléments d'attraction important vers ces œuvres, qui est que des personnages féminins forts y sont affirmés. C'est finalement un des lieux où on peut trouver des personnages féminins forts, ce qui n'est pas si courant finalement dans une littérature qui reste quand même très centrée sur le masculin, avec dans l'idée que le héros masculin est le personnage neutre sur lequel peuvent se projeter indifféremment les lecteurs et lectrices. Mais il y a quand même une valorisation très forte de ces personnages féminins dans ces différentes œuvres et notamment dans vos œuvres à vous. Est-ce que, de ce point de vue-là, est-ce que c'est un choix, qui vous semble un choix tactique, c'est-à-dire une façon de se diriger vers un lectorat plus spécifiquement féminin, par exemple, ou est-ce que c'est d'une certaine façon dû à une qualité intrinsèque que peut avoir le personnage féminin du fait de la position des femmes dans la société et de leur situation finalement plus... Peut-être qu'elles ont plus de questions à se poser au moment où elles cherchent leur place dans la société. Est-ce que c'est quelque chose qui vient de l'extérieur ou de l'intérieur, en quelque sorte, sans doute un peu des deux, mais...
Pour ma part, à l'origine, moi, déjà, c'est vraiment une démarche féministe, justement parce que j'ai lu énormément de romans où il n'y avait que des hommes ou des garçons en héros, que j'ai commencé à écrire des dystopies à peu près au moment de la sortie du film d'Hunger Games. Donc il commençait à y avoir quelques héroïnes fortes, mais il n'y en avait pas tant que ça. Et vraiment, déjà, à l'origine, moi, j'avais juste envie d'avoir un personnage féminin qui n'est pas celle qu'on va sauver. Je fais très attention à ça dans mes romans, que même quand elles sont dans la panade, je ne veux pas que ce soit leur love interest ou leur père ou je ne sais qui viennent les sauver. Soit elles se débrouillent toutes seules, soit elles trouvent d'autres façons, mais c'est pas des princesses en détresse. C'est des jeunes filles qui se débrouillent dans la vie, qui font avec ce qu'elles ont et qui ne comptent pas toujours sur les hommes pour s'en sortir. Et puis, il y a aussi tout simplement le fait que moi, je m'identifiais plus aux personnages féminins. Donc, je me sens plus à même de les décrire parce que je vais décrire un certain nombre d'émotions que j'ai pu ressentir un jour en les transformant, en les mettant dans une autre histoire, mais que je ne serais pas forcément capable, je pense, de faire un personnage masculin aussi cohérent que pour les personnages féminins, du moins pour le moment, parce que c'est pas exclu pour l'avenir.
Tu parlais d'émotions, effectivement, c'est aussi pour ça que mes héros sont avant tout des héroïnes, hein, même si finalement, dans le tome 2, où je change de point de vue, j'ai aussi le point de vue d'un héros garçon, mais c'est surtout parce que les filles ont des émotionnalités différentes, je trouve, des garçons, et avec dans lesquelles je me ressens moi plus proche finalement. Bah, je suis une femme, hein, donc oui. Et puis c'est plus facile de s'identifier à finalement un héros qui nous ressemble nous. Mais je travaille moi justement maintenant petit à petit à travailler sur des héros garçons parce que je pense que c'est un exercice qui est intéressant sur cette sur ce diptyque-là effectivement. On a beaucoup de points de vue des filles et je pense que ce qui a lancé un petit peu ben, les Hunger Games, les Divergentes, alors pas le Labyrinthe parce que c'est mais Uglies aussi où on a des héros filles, c'est ben l'arrivée des féministes dans l'écriture
enfin,
qui font que oui, il faut sortir de ces héros qui sont des mâles alpha qui vont sauver les belles demoiselles en détresse et qu'on a enfin des belles demoiselles non en détresse qui vont sauver le reste
belle,
le reste
d'ailleurs.
Du monde et mais elles sont toutes belles
oui.
dans leur force et enfin ça fait du bien. Ça fait du bien de, ben, pour les lectrices de s'identifier à des héroïnes qui leur ressemblent et puis pour les lecteurs de se mettre à la place d'une femme et de se rendre compte à quel point eh ben, être une femme, ce n'est pas toujours les jours faciles, mais on s'en sort plutôt très bien.
Et quant à la question de la possibilité de se projeter dans les personnages, l'exemple du dernier Star Wars dans lequel le personnage féminin est le plus clairement celui dans lequel les petits garçons et les petites filles se sont le plus facilement projetés et ça a beaucoup surpris les responsables du marketing chez Disney. Mais c'est une réalité. Et effectivement, de ce point de vue-là, les personnages qu'on peut voir dans Hunger Games notamment et Divergentes, clairement ont des fidèles, des fidèles amateurs qui sont des hommes sans qu'il y ait de ce point de vue-là de partition de genre très très décisive. Alors une chose qui intervient un peu dans ce que vous dites, c'est finalement la question alors de l'identification, mais la question du modèle. Dans quelle mesure ces personnages féminins peuvent-ils être considérés d'une manière ou d'une autre comme des modèles, compte tenu du fait qu'ils sont définis au départ comme étant ordinaires et simplement, en quelque sorte, le résultat de la pression des circonstances. C'est-à-dire que vous avez commencé tout à l'heure en expliquant que finalement, leur héroïsme n'en était pas tout à fait un, au sens, disons, traditionnel du héros supérieur à son environnement, au Jim héros galactique, en quelque sorte. Donc, dans quelle mesure est-ce qu'on peut avoir ici des modèles, des éléments qui pourraient guider éventuellement dans une perspective un peu pédagogique, là je pense aux enseignants qui les mettraient dans leur liste de lecture, mais pas forcément les enseignants. Pourquoi peut-on avoir envie de s'identifier à ces personnages au-delà de la simple empathie ?
Mais tout l'intérêt est dans leur transformation justement, qu'ils partent de l'ordinaire et ils deviennent extraordinaires et... Moi, ce qui m'intéresse quand j'écris des dystopies, c'est quel chemin les amène à faire ça. Alors, non, effectivement, il y a un déclencheur qui est souvent la prise de conscience que la société ne leur convient pas. Mais à partir de ça, enfin, c'est pas forcément les seuls dans leur univers à avoir vu ce déclencheur, à être insatisfaits, mais c'est les seuls à réussir à utiliser cette insatisfaction pour changer les choses. Et je pense que c'est en ça qu'ils peuvent devenir un modèle, c'est qu'ils incitent tout simplement à réfléchir, à essayer de savoir ce qu'on voudrait mettre en place et surtout comment on pourrait le faire, et qui incitent tout simplement à agir par rapport à nos valeurs, enfin réfléchir à nos propres valeurs et agir en fonction. Je pense que c'est en ça que ça peut être des modèles et que ça s'applique à peu près à toutes les transformations de héros, même si elles sont toutes très très différentes dans les romans. Et c'est, ce qui est intéressant, c'est que leur personnalité entre en jeu aussi. Et entre en résonance ou parfois l'inverse, ça peut être très compliqué pour eux de devenir ce leader. Et du coup, c'est ouais, vraiment plus la notion de transformation que les actes héroïques finalement. C'est ce qu'ils font de ce qu'on leur donne plutôt.
Oui, effectivement, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que on peut tous s'identifier à ces héros au départ, hein, qui sont des gens lambda et qui n'ont pas forcément les atouts pour mener une révolution et qui se révèlent dans la difficulté comme des meneurs. Au fond de nous, on aimerait tous avoir cette carrure, cette possibilité de mener une révolution pour sauver ce qui reste de notre humanité. Je pense à un livre notamment que j'avais adoré il y a quelques années et dont j'ai pas beaucoup entendu parler dans le monde de la lecture. C'est Chroniques de la fin du monde de Suzanne Best Pfeiffer, qui est juste phénoménal. Moi, il me mettait tellement mal à l'aise que j'étais obligée de fermer le livre par moment pour arrêter, parce que c'était compliqué.
Vous pouvez nous en dire un peu plus ?
Bien sûr. Alors, on est sur un météorite qui va toucher la Lune, qui va rapprocher la Lune de la Terre et qui va entraîner d'énormes modifications sur notre Terre, puisque forcément les marées, le climat, tout ça va se retrouver changé. Et on est sur un post-apocalyptique, du coup, pour le coup. Et où on suit une adolescente de 16 ans qui écrit son journal intime. Donc on peut avoir au début envie de lui donner des baffes de temps en temps, parce qu'elle réagit comme une adolescente de 16 ans, et quand on est adulte, c'est compliqué des fois à lire ce genre de choses. Mais par contre, elle se révèle dans la difficulté. Moi, je me suis posé la question pendant tout le tome de comment je réagirais dans ces cas-là. Et c'est des héros comme ça qu'on a envie de suivre et qu'on aurait envie de devenir, parce qu'elle devient phénoménale. C'est-à-dire qu'elle va supporter sa famille, elle va emmener sa famille dans la difficulté, c'est elle qui va porter toute sa famille, sa mère, son petit frère, ses voisins. Et c'est vraiment un livre qui m'a fait poser la question tout le long du roman. Comment je ferais, moi, dans un cas comme ça, moi qui suis mère de 2 enfants, est-ce que je serais capable de porter mes enfants comme elle a pu porter sa famille à 16 ans ?
Donc finalement, il y a une espèce de leçon de résilience, un mot à la mode actuellement. Alors, y a-t-il des questions ? Oui, il y en a une. Où ça ? Ah, là-bas, d'accord, j'arrive.
Bonjour, merci. Ma question, ça portait sur l'identification. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus là-dessus ? Comment ça marche ? Quelle est sa définition ? En quoi est-ce que c'est important ? Et pourquoi auprès de la jeunesse aussi ?
Sur l'identification, c'est ça, j'ai pas tout entendu.
En gros, les mécanismes de l'identification, et je crois que ça c'est une question qui peut partir dans 2 sens, c'est-à-dire comment composer un personnage de telle sorte que on puisse s'identifier à lui, quels vont être les éléments qui vont être mis en place justement, et réciproquement, qu'est-ce que ça peut signifier pour un lecteur, et donc là, votre expérience de lectrice, c'est essentiel, de s'identifier à un personnage, jusqu'où et pourquoi ?
Alors, l'identification, en tant qu'auteur, c'est quelque chose à laquelle j'ai beaucoup réfléchi, parce que, évidemment, moi, quand je lis des romans, j'ai besoin de m'identifier au personnage, et c'est vraiment l'histoire des personnages et de la relation qui m'intéresse, donc j'ai voulu, évidemment, reproduire la même chose dans mes romans. Je suis arrivée à la réflexion qu'il faut un genre d'universalité qui va passer par des détails. Alors, je m'explique, c'est en fait qui vont être des expériences que moi j'ai vécues, que mon voisin a vécues, que quelqu'un que je croise en salon a vécu, qui pourraient en fait arriver à n'importe qui, et que je vais retranscrire dans le roman. Alors non pas en remettant exactement l'événement qu'il a vécu, mais plutôt en remettant la façon dont il les a vécus. Typiquement, je suis arachnophobe, j'ai très très peur des araignées, c'est une peur complètement irrationnelle. Je ne vais pas rendre mon héroïne arachnophobe, mais quand elle se trouve face à quelque chose qui lui fait peur, je vais puiser dans cette expérience, dans cette peur pour redécrire les choses et pour rendre un côté plus réaliste que n'importe qui aura pu ressentir en ayant peur, je sais pas, des serpents, du vide, d'autres choses. Et c'est cette notion que j'appelle l'universalité qui se retrouve non pas dans l'intrigue en elle-même, puisqu'on essaye d'avoir des intrigues originales puis on est dans la science-fiction, dans l'imaginaire, c'est pas des choses qui nous arrivent. En revanche, d'avoir une véracité dans l'émotion, une véracité dans les réflexions qu'on peut se faire sur le quotidien. On parlait tout à l'heure des parents sur l'héroïne qui en a marre de ses parents parce que c'est une adolescente et qu'ils veulent pas qu'elle sorte. Ce genre de choses qui peut nous arriver ou arriver aux gens autour de nous, qui pour moi permettent une identification plus forte parce qu'on se dit « Ah oui, c'est vrai, ça moi aussi je le vis. » Et donc on se place dans la peau du personnage. Qu'en penses-tu ?
Je pense que finalement dans chacun de nos personnages, il y a un petit peu de nous. On est obligé de dispatcher dans chacun de nos personnages un petit peu de ce qu'on a été ou de ce que l'on est aujourd'hui pour justement nous déjà arriver à leur donner une humanité dans l'écriture, et pour que chacun des lecteurs, le jour où il a le roman entre les mains, puisse s'identifier. Et ça passe effectivement par des émotions générales que tout le monde a pu ressentir, parce qu'autrement, c'est compliqué de lire un livre dans où on ne peut pas s'identifier au héros. Moi, j'en ai un dans mon tome 1 avec lequel j'avais vraiment du mal, bah, je l'ai tué dans le tome 2.
Donc, un auteur peut être impitoyable. J'aimerais poser une question maintenant plutôt sur les dystopies et la structure des dystopies. Parce que finalement, une des logiques de la représentation, c'est les héros, c'est une chose, mais quelque chose qui attire énormément dans ces représentations, c'est évidemment la société et les mécanismes de cette société future qui sont mis en place. Et en un sens, il y a cette question qui peut venir à l'esprit de toute personne qui lit ou voit une de ces dystopies, c'est mais comment a-t-on pu en arriver là ? C'est-à-dire que finalement, il y a un problème, alors ça peut être un problème de crédibilisation du monde, mais ça c'est une autre chose, mais c'est surtout comment a-t-on pu en arriver à une situation qui soit aussi nettement défavorable aux personnes qui sont les personnages centraux, alors même qu'elle paraît être parfaitement normale pour tous les autres. Et donc, j'aimerais qu'on s'attarde un petit peu sur la question des mécanismes, de comment constituer une dystopie qui soit à la fois stable dans sa constitution et en même temps, clairement, problématique, qui contient un élément problématique de notre point de vue. Et ultérieurement, si nous avons le temps, j'aimerais qu'on examine ce que, finalement, ces dystopies disent de nos sociétés contemporaines.
Alors clairement, pour moi, l'écriture de la dystopie, la lecture de la dystopie, c'est aussi l'envie de dire attention. Attention à ce qu'on fait aujourd'hui et voilà à quoi notre futur pourrait ressembler. C'est assez horrible hein, parce que ce qui se passe dans les dystopies, on n'a pas franchement envie d'y arriver. Mais pour moi, c'est clairement un message d'alerte. J'ai envie de dire à la jeune génération, voilà où on en est aujourd'hui. Voilà ce qui se passe et voilà ce que pourrait être notre futur. Je sais que j'ai eu des retours de pas mal de lecteurs me disant c'est quand même ton roman, enfin ton diptyque est horrible parce que ça pourrait exister réellement, parce que j'ai pas tant changé les codes de la société actuelle. Je suis juste partie de ce qu'on a aujourd'hui, j'ai tout cassé et j'ai reconstruit que certains éléments. Et avec, ben, comme dans toutes les autres dystopies, un gouvernement totalitaire qui dirige la vie des gens. Et pourquoi est-ce que les autres ne le voient pas ? Ben, tout simplement parce que, en tout cas pour moi, ou comme dans Hunger Games ou dans Divergente, on leur fait peur. Hein. On leur dit, attention, si vous bougez d'un pas de trop vers la droite ou d'un pas de trop vers la gauche, vous êtes mort. C'est aussi comme ça qu'on mène une dystopie et qu'on arrive à conserver un gouvernement totalitaire pendant X années sans révolution. C'est maintenir les gens dans la peur, leur dire que ben si ils font un geste de trop, c'est la fin. Et pourquoi nos héros y vont ? Ben, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est l'envie de sauver finalement un amoureux, une amitié, se dire... Il passe au-dessus de la peur de mourir, finalement.
Oui, alors que dans mes univers, souvent, ils n'ont pas peur, les héros, au début, simplement parce qu'ils ne savent pas qu'il y a autre chose qui existe. C'est-à-dire qu'ils sont dans leur société dystopique, qui, pour eux, leur semble normale, tout simplement parce qu'ils ne connaissent que ça. Ça se sent autant dans IRL, où l'héroïne est un personnage de jeu vidéo et qu'elle a juste l'impression d'être une fille comme les autres, que dans de l'autre côté du mur où l'héroïne ne connaît rien à la vie, elle sait juste que pour elle le monde se résume à ses cours de danse et les filles qui vivent avec elle, et elle sait même pas qu'il y a autre chose qui existe. Chose qu'elle va évidemment apprendre progressivement au cours du roman. Du coup, pour moi, la mise en place de la société dystopique et de l'héroïsme par rapport à ça vient aussi par la connaissance, en fait, tout simplement. Il y a des murs à abattre. De l'autre côté du mur, il y en a plusieurs. Progressivement, quand elle découvre quelque chose, plusieurs pages après, elle va voir qu'il y a un autre mur qu'elle va devoir repasser de l'autre côté et encore l'abattre. C'est sans fin, évidemment. Même à la fin du roman, on me demande toujours une suite parce que, évidemment, il y a d'autres frontières à franchir, mais je pourrais faire une suite qu'on m'en redemanderait une autre, parce que ça ne se finira jamais. Donc, c'est, ouais, plus que la peur, c'est l'ignorance, en fait. D'ailleurs, on revient à 1984, qui est quand même un des fondateurs de la dystopie, où au départ, ils ne connaissent pas autre chose, et où le gouvernement les manipule pour leur empêcher de, ne serait-ce que de penser révolte. Ils suppriment tous les mots du vocabulaire pour empêcher les gens de penser autrement que ce qu'ils veulent.
Donc l'ignorance ou la peur. C'est ça. Alors, il me semble qu'il y a un mécanisme quand même qui revient très fréquemment, mais de manière assez diverse tout de même, qui est le mécanisme, on l'a déjà un peu évoqué, de la sélection. C'est-à-dire que ce soit une sélection pour orienter les gens dans telle ou telle catégorie de la société, ou une sélection assez draconienne, comme ce qu'il y a dans les Hunger Games, où finalement, bah, il s'agit finalement de n'en laisser qu'un. En même temps, ce qui va être l'instrument de la révolte, c'est justement l'erreur de sélection ou le problème dans la sélection. Je vais oser, mais c'est pas très important. Mais je me demande en quelle mesure cette logique de sélection, c'est le prolongement d'une logique que ressentent actuellement, que ressentent à notre époque les adolescents contemporains. Je pense aux angoisses qu'il peut y avoir face au logiciel APB, par exemple, et à l'idée que finalement beaucoup de l'avenir se détermine dans des choses qu'on comprend pas, des mécanismes. Bon, alors notre gouvernement n'est pas totalitaire, ou alors on nous cache quelque chose. Toujours est-il que cette logique de sélection, finalement, qui peut paraître assez symbolique, voire un peu simpliste, hein. Finalement, bon, allez hop, vous allez dans telle case, et puis vous n'avez pas le choix, c'est quelque chose qui peut sembler au départ entraîner une révolte immédiate. Mais finalement, dans quelle mesure est-ce que ça, cette logique de sélection, prolongerait des fantasmes, des peurs d'une société qui finalement est beaucoup plus rigide, dont les catégories seraient plus rigides du point de vue des adolescents, s'apprêtant à sauter le pas en quelque sorte?
Mais l'adolescence, c'est quand même l'âge de l'orientation, on va choisir qui on va être plus tard, ce qu'on va faire plus tard. De plus en plus, on nous dit que c'est difficile de changer de voie une fois qu'on en a choisi une. Moi, je me souviens, quand j'étais au lycée, j'avais beau savoir déjà à peu près ce que je voulais faire, j'étais terrifiée en me disant, une fois que j'aurai choisi, ce sera très compliqué de changer. Et je pense que tout simplement, oui, bon, on parlait d'admission post-bac tout à l'heure, je pense que ça se retrouve aussi, pour moi c'est le même dynamisme en fait, tout simplement. C'est choisir qui on va être et ce qu'on va faire à ce moment-là. Et finalement, le fait d'avoir des sélections très simples dans les dystopies, à l'adolescence, à un moment, je pense qu'on en rêve presque, qu'on nous dise, bah, tu es fait pour faire ça, vas-y, fais-le, et tu te poseras plus jamais la question, ce sera très facile pour toi. Je pense que c'est là qu'on rejoint peut-être le fantasme, mais qu'en même temps qu'on se rend bien compte que ben ça peut pas correspondre à tout le monde, que les gens peuvent se tromper, que ça peut pas marcher en fait. On va être obligé de choisir quand même.
Oui, c'est tout à fait ça. On rentre vraiment dans un mécanisme, je dirais, pire que le bac. Où le bac, ben déjà, on dit aux gens, ben voilà, t'as un bac L, ben derrière. Tu vas aller en fac d'histoire, en fac de lettres. Là, on rentre dans une sélection qui est encore pire, c'est-à-dire que, de toute façon, à la sortie, on leur dit « Toi, tu vas aller travailler dans les champs. Toi, tu vas aller ramasser des pommes. » Enfin, on rentre vraiment dans le gouvernement qui s'immisce dans le système de sélection qui existe déjà pas à ce point-là. Hein. Mais le bac, ça reste un système de sélection. Aujourd'hui, on nous dit que si on n'a pas le bac, on fera pas grand-chose du reste de notre vie. Donc, c'est vraiment faire rentrer le gouvernement encore plus loin dans ce qu'on a déjà aujourd'hui et finalement bah, faire le choix de ce que chacun va devoir faire à la place des gens. Et comme le dit Agnès, à l'adolescence, est-ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous dise prendre les choix, les décisions à notre place, parce que c'est pas forcément évident pour un adolescent de prendre cette responsabilité en sachant que derrière, peut-être, il ne pourra pas revenir en arrière.
En un sens, il y a aussi à l'arrière-plan ce fantasme d'un confort dans l'absence de responsabilité.
Tout à fait.
De ce point de vue-là, dans quelle mesure, du coup, je poursuis un peu ma logique, mais dans quelle mesure y a-t-il une sorte de... comment dire, d'angoisse scolaire dans tout cela. Je dis ça au sens, non pas pour parler de l'école, bien sûr, tu vois, ça serait un sujet de science-fiction passionnant, mais plutôt pour mettre l'accent sur le fait qu'il y a une sorte d'inversion des valeurs, souvent dans ces œuvres-là, au sens où ce sont ceux qui sont différents, qui ne rentrent pas dans les cases, justement, qui sont ceux qui, à la limite, les divergents ou les oubliés, en un sens, ce sont ceux qui échoueraient au bac, dans cette logique, si on suivait la métaphore évoquée tout à l'heure. C'est-à-dire que ce sont ceux qui ne rentrent pas dans les cases et qui ne remplissent pas tout à fait les catégories qui correspondent à la société totalitaire telle qu'elle est envisagée. Et pourtant, ce sont ceux qui deviennent, par inversion, les instruments du changement et, au contraire, des individus survalorisés. Il y a, du coup, une valorisation dans le récit du caractère spécial des personnages, caractère spécial qui est souvent, on l'a déjà dit plusieurs fois, vécu comme quelque chose de, finalement, de non voulu, voire comme quasiment une malédiction, quelque chose qui n'est pas forcément souhaitable. Et pourtant, donc, voilà, il y a cette inversion des valeurs, non pas du côté de la rébellion, mais du côté, finalement, de l'inadéquation. C'est-à-dire que être inadéquat, ça devient, au contraire, quelque chose d'extrêmement valorisé.
Je pense qu'à l'adolescence, on s'est tous sentis ne rentrant pas dans les cases, finalement. On a tous eu notre moment où on s'est dit, je sais pas, je me sens pas à ma place, je rentre pas dans le moule, je suis pas conforme à ce qu'on attend d'un jeune de mon âge. Et du coup, tout le monde peut s'identifier à ces divergents, à ces oubliés, parce que ben, on a tous eu ce moment où on aimerait se fondre dans la masse et où on n'y arrive pas parce qu'on se sent différent. Et du coup, ça peut être chacun d'entre nous, les divergents et les oubliés.
J'avoue que, effectivement, j'en ai lu pas mal, mais justement, j'avais jamais réfléchi à la question. Mais mes héros rentrent parfaitement dans les cases, en fait, justement. Ce sont pas des divergents, ce sont pas des oubliés. Dans De l'autre côté du mur, l'héroïne est promise à un brillant avenir. Quelqu'un fait une faute qui va la mettre en défaut, mais c'est pas elle qui a fait la faute. Et dans IRL, encore une fois, quelqu'un ne lui avait pas dit, tapé sur l'épaule en lui disant regarde, t'es pas.
Alors, le point de départ dans IRL n'est pas forcément une divergence intrinsèque, mais il y a tout de même cette caractéristique du personnage de Chloé, donc, qui est le personnage qui va basculer du virtuel vers le réel et réciproquement. Ce personnage-là, sans être, disons, au départ, un divergent dont le code génétique est, ou un de ces personnages du labyrinthe qui va tout d'un coup être résistant à la maladie, bon, bref, il y a tout de même cette inadéquation acquise, c'est-à-dire l'idée que dès lors qu'elle est passée de l'autre côté du miroir, si j'ose dire, eh bien, elle ne peut plus trouver sa place. Et pourtant, c'est justement ça, ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même cet effet-là, qui n'est pas simplement... Ce que je veux dire, c'est qu'il est tout à fait envisageable des héros qui trouvent leur place, on en a facilement, c'est-à-dire qu'ils sont dans le mécanisme et ils défendent simplement un système. Mais il me semble que justement, le problème de ce personnage de Chloé, c'est qu'il ne peut plus revenir en arrière, donc cette jeune fille ne peut plus revenir en arrière, ne peut plus faire comme si ça n'était jamais arrivé. Et en un sens, ce qui est de l'ordre d'un traumatisme, quasiment pour le coup, c'est quasiment une agression, c'est une agression dans son intimité, puisqu'elle comprend tout d'un coup qu'elle est observée en permanence, et d'une certaine façon, elle n'a plus d'intimité. Et donc là, c'est un traumatisme qui peut être... Mais toujours est-il que ça la transforme. Et ça en fait un personnage qui n'a plus de place dans le système.
Oui, c'est ça. Oui.
Donc il y a quand même cette inversion de valeur et justement cette valorisation de l'inadéquation, de l'impossibilité à trouver sa place, même si effectivement ici c'est plutôt un accident qu'une caractéristique initiale. Y a-t-il une autre question dans le public ? Oui, là-bas. Et là-bas.
Oui, bonjour. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'on est un peu sur des adolescents idéaux du point de vue des parents lecteurs, parce que justement, ils font des choix, ils savent où est le bien, ils savent où est le mal, ils ont une éthique, ils sont loyaux, ils aiment leurs parents, ils aiment leurs amis. Donc, quelque part, c'est plutôt des adolescents rêvés, non ?
Alors, ils aiment leurs parents, je dirais pas toujours quand même. On a quand même le rapport, ne serait-ce que de Katniss avec sa mère, qui est quand même extrêmement complexe. Dans exemple, de l'autre côté du mur, les mères, donc elles n'ont pas de parents en particulier, elles ne savent pas qui est leur parent, mais les mères sont quand même vécues, très vécues comme les méchantes de l'histoire. Je ne suis pas sûre que ce soit des adolescents idéaux. J'ai plutôt l'impression qu'ils se débattent et qu'ils font un peu comme ils peuvent. Effectivement, dans la relation parentale, je sais pas, je trouve que ça varie pas mal selon les dystopies, en fait. Je réfléchis en même temps que je parle. je réfléchis à IRL, où l'héroïne a un rapport très fort avec sa mère, mais en revanche, avec son père, c'est très, très compliqué. Peut-être dans Les Oubliés, je sais pas.
Ah non, moi, dans Les Oubliés, dès le départ, elle est en opposition avec ses parents sur, justement, le système de test qu'elle ne comprend pas et elle ne comprend pas que les anciennes générations aient subi les tests sans rien dire, sans demander ce que devenaient les oubliés. Et elle se pose la question que ses parents ne se sont pas posés. Donc, le jour où elle part pour ses tests, elle part en colère contre ses parents, même si elle leur dit au revoir, même si elle leur dit qu'elle les aime. Elle reste quand même en colère après eux. Et franchement, non, c'est loin d'être une adolescente... idéal, j'aimerais pas l'avoir comme adolescente, par exemple.
En revanche, c'est vrai qu'il y a une justification des révoltes adolescentes qui sont là peut-être effectivement idéalisées. Parce que je suis pas sûre que tout adolescent qui se révolte contre ses parents ait une bonne raison de faire la révolution. En tout cas, pas dans chacune de ses actions.
J'aurais une question, moi, sur les genres de dystopie. Est-ce que quand vous êtes face à des éditeurs, ils vous disent « on veut avoir tel ou tel récit », ou est-ce que vous avez une part de création où vous pouvez créer les récits que vous voulez? Comment ça marche, quoi?
Non, j'ai d'abord écrit mes romans avant d'aller voir l'éditeur. Et mon éditrice actuelle, c'est elle qui est venue me chercher, puisqu'elle avait lu l'ancienne version. Et elle est venue me chercher en me disant « Ah, il y a moyen de faire un truc encore mieux avec ton roman, on en parle. » Et voilà. Donc non, c'était pas une commande, entre guillemets. C'était vraiment de moi.
Pareil.
Oui, bonjour. Je suis enseignant d'art plastique et je me demandais si, par rapport aux générations adolescentes, le passage de la télévision et des médias plus officiels à des médias plus interactifs, et l'histoire de l'écoute de la NSA par rapport à une écoute militarisée, les histoires de lanceurs d'alerte dans différents domaines, que ce soit l'agro-industrie, le système bancaire, plein de choses, faisait que c'était ça qui pouvait créer cette parabole, cette métaphore de forme totalitaire qui serait, qui donnerait ces lignes rouges dans lesquelles il ne faut pas passer. Et est-ce que ces lanceurs d'alerte seraient ces sortes d'épouvantail montrés pour montrer ces quadruples peines si votre quête de liberté ou de vérité est exprimée?
Moi, j'avoue que c'est le sujet des lanceurs d'alerte m'a évidemment beaucoup questionnée pour IRL, vu que je parle beaucoup des réseaux, de la télé-réalité et notamment de la collecte des données sur les gens et de l'utilisation qu'on en fait. Je l'ai réécrit au moment de la loi sur le renseignement qui est passée, qui autorise le gouvernement à venir fouiller dans nos fichiers sans nous le dire et à pouvoir en faire à peu près ce qu'il veut, et qui autorise en fait la surveillance de masse. Et c'est effectivement des questions, je pense, qui entrent beaucoup en résonance. Il y en a plusieurs qui évoquent aussi la télé-réalité. Il y a Hunger Games, il y a la sélection de Caracas. Parce que tout simplement, ce sont, je pense, des choses qui sont très répandues aujourd'hui et dont on se méfie, parce que au-delà du côté ludique au départ, on se rend bien compte qu'il y a des dérives et on a envie d'y réfléchir et de tirer les ficelles, se dire et si on continue dans cette voie, attention, qu'est-ce qui va se passer, voire c'est déjà comme ça que ça se passe, attention à ce que vous faites de vos données, à ce que le gouvernement pourrait en faire, etc.
Oui, effectivement, de toute façon, l'actualité nous inspire toujours dans ce qu'on écrit, notamment quand on écrit de la dystopie, c'est-à-dire que on va regarder ce qui se passe au niveau politique, au niveau du gouvernement, pour se dire attention aux dérives qui sont en train de venir, et voilà ce que ça pourrait être dans quelques années si on laisse faire. Oui, forcément, on s'en inspire.
Merci. Alors, on va s'arrêter ici, sachant que vous pouvez poursuivre les discussions et poser vos questions aux auteurs qui seront en dédicace à la librairie dès maintenant, je crois. Voilà. Voilà. Le temps d'y aller. Voilà. Merci à vous et merci à nos auteurs.